Donc maintenant, on va ouvrir le conseil municipal. Bon, ce projet nous semblait intéressant de vous le présenter, surtout qu'il est en fin d'aboutissement. Donc, pour le conseil municipal, nous avons les excuses de Michel Bisaccia, qui a donné procuration à Mireille Papin, Pierre Achard, qui a donné procuration à Antoine Di Paolo, et Corinne Moore, qui a donné procuration à Rémi Mounier. Le quorum étant rempli, on va pouvoir délibérer administrativement. Et on va commencer par quelque chose qu'on adore tous les ans. C'est le tirage au sort des jurés d'assises. Donc, chaque année, nous sommes appelés à établir par tirage au sort la liste préparatoire des jurés d'assises à partir de la liste électorale. Madame le préfet a fixé pour 2027, par arrêté en date du 5 janvier 2026, la répartition entre les communes du département. On constate que le canton de Saint-Étienne, dont nous dépendons, compte 179 jurés. La commune de Saint-Priant-Jarret, quant à elle, doit désigner 5 jurés. D'un point de vue pratique, il convient de tirer au sort 3 fois le nombre de jurés portés à l'arrêté, soit 15 personnes, sachant que ne peuvent être retenues que les personnes nées entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 2003. Je vous propose donc de passer au tirage au sort, sachant que c'est l'ordinateur, bien sûr, qui va le faire.
Donc, ce qu'on peut voir à l'écran, j'ai rentré donc les dates de naissance et le chiffre de 15. Donc, c'est le résultat du tirage au sort. Donc, on a Madame Julie Fernande-Jacqueline Berne. Je commence par Karine Christelle Audras, née en 1972. Madame Julie Fernande Berne, née en 2002. Madame Sophie Botorel, née en 1982. Monsieur Denis Collomb, née en 1967. Monsieur Olivier Constant, né en 1970. Monsieur Christophe Convert, né en 1974. Madame Frédérique Dedouche, né en 1988. Madame Michèle Farou, épouse Verdier, née en 1966. Monsieur Arnaud Montrobert, né en 1986. Monsieur Ahmed Warouche, né en 1980. Madame Nadine Perrache, née en 1962. Monsieur Renaud Pollier, né en 1973. Madame Françoise Roger, épouse Kant, née en 1962. Monsieur Antoine Rousson, née en 1996. Et Madame Anne Véricelle, née en 1959.
Donc voilà, on a fait le tirage au sort pour cette année. Et on va pouvoir commencer le conseil. Alors, je vais demander à Mireille Papin si elle veut bien assurer le secrétariat de cette séance. Très bien. Donc, on a tout un ensemble de questions qui gravitent essentiellement autour de notre comptabilité et notre budget. On vous a adressé récemment 2 points complémentaires. Un, donc on examinera en fin de conseil, on va dire un point 18 et un point 19, l'exonération de la TLPE dans un certain contexte et la signature d'une convention culture avec le CHU. Et on va commencer par le premier point. Alors, déjà, l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Avez-vous eu des remarques, des observations à faire? Donc, on va passer au vote du procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Le premier point, il est formel, puisque Je vous demande d'approuver les comptes de gestion 2025 de la commune de Saint-Priest-en-Jarez et du service des pompes funèbres dressés par le comptable public, donc du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et conformes aux comptes administratifs soumis au vote. Les comptes de gestion donc du Trésor public seront consultables en mairie. Donc là, je ne vais pas les détailler, puisque ce sont les comptes tenus par le Trésor public. Ce sera la dernière année où on aura d'une part le compte de gestion et d'autre part le compte administratif, puisqu'à partir du 1er janvier, on bascule en compte financier unique, donc collectivité territoriale et Trésor public. Donc il n'y aura plus cette dualité de suivi comptable. Ça, c'est une première chose. Et la seconde, et vous le savez parce qu'on l'avait évoqué, on a eu quelques difficultés avec le Trésor public, ou plutôt ils ont été, eux, confrontés à des difficultés d'ordre informatique, puisque sur les deux serveurs nationaux dont ils disposent, l'un à Versailles, l'autre à Metz, celui de Metz auquel on était rattaché a rencontré des sérieuses difficultés, au point qu'il y a quelques semaines, on se demandait si on allait être en capacité de payer nos collaborateurs. Alors, il n'y a pas que Saint-Priest, hein. Il y a à peu près la moitié des communes de France qui étaient concernées. Ça s'est réglé, tout est rentré dans l'ordre. On a reçu le compte de gestion pour la commune il y a une dizaine de jours, et pour les pompes funèbres, c'était, je crois, jeudi ou vendredi. Et enfin, pour le CCAS, mais vous n'êtes pas concerné, on verra ça la semaine prochaine au conseil d'administration du CCAS, on l'a également reçu. Donc voilà, tout est rentré dans l'ordre, mais c'est vrai qu'on a été un peu inquiet par cette situation. Le point suivant, c'est donc celui relatif à la présentation des comptes financiers. Donc vous avez reçu l'ensemble des documents. Ils sont très denses, évidemment. Il y a beaucoup de documents qui sont détaillés. Il y a même énormément de pages où il n'y a rien, parce que on n'est pas concerné. Donc là, la synthèse qu'on va vous présenter par rapport au compte administratif, c'est-à-dire le résultat 2025, c'est une synthèse qu'on avait déjà présentée en commission finance. Bien sûr, ça reprend les mêmes chiffres. Alors, on peut dire que l'année 2025 est une année exceptionnelle en investissement au niveau des dépenses et des recettes. Ça, c'est une appréciation. On constate la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement et pourtant, nous avons donc une hausse en 2025 de 3,58% de nos dépenses alors qu'on était à plus de 64% en 2024. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je vais prendre un exemple déjà tout de suite. Vous savez que l'essentiel de nos dépenses de fonctionnement, ce sont nos frais de personnel. Vous avez dans les documents un état. Au 31 décembre 2024, nous avions 95 agents en équivalent temps plein, permanent, 12,7 en équivalent temps plein non permanent, soit un total de 107,7 équivalent temps plein pour 2024. Au 31 décembre 2025, nous n'avons plus que 89 équivalent temps plein permanent, donc moins 6, 14,6 ETP non permanent, donc plus 1,9, et au total, 103,66 ETP, soit une baisse de 4 agents en équivalent temps plein. Donc vous voyez que ce qu'on dit depuis des années, maîtrise de l'évolution de nos effectifs, elle se confirme comme ça, et pour autant, les coûts salariaux et les charges qui en découlent continuent à évoluer avec une maîtrise qui est très très relative de notre part. Vous savez par exemple que la décision de l'État d'augmenter de 3 points par an la cotisation employeur aux caisses de retraite des salariés, sur 4 années, on a calculé, ça va être un surcoût à absorber de 480 000 euros. C'est une réalité, c'est l'État qui l'a décidé. On n'a pas de subvention pour ça, et pourtant, il faudra bien y faire face. Notre capacité d'autofinancement est importante en 2025, puisqu'elle nous laisse un excédent reporté sur 2026 de 2 459 670 euros. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas uniquement le résultat de l'année, mais c'est le résultat cumulé année après année de la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Il nous faut un excédent de fonctionnement. C'est indispensable. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'avoir ni un budget ni un compte administratif en déficit pour le fonctionnement, puisque une partie de cet excédent doit permettre d'honorer l'annuité de la dette l'année suivante en investissement. Enfin, nous avons poursuivi un de nos grands projets qui est le stade Camille de Rochetaillée, alors qui n'est pas livré au printemps 2025, mais qui sera plutôt livré au printemps 2026, voire au début de l'été. En ce qui concerne le compte administratif, donc ce sont les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement. Les dépenses se sont élevées à 10 874 587 €. Un autre chiffre, vous ne l'avez pas là, mais les dépenses de personnel ont représenté 5 833 919,70 € sur des dépenses réelles. Alors, je ne parle pas des 10 millions, mais sur les dépenses réelles, puisque vous avez vu que dans les documents, vous avez des dépenses réelles plus d'autres types de dépenses pour arriver aux 10 millions. Donc sur 9 015 311,76 €, qui représente bien 65% des dépenses réelles. Dans les charges générales, qui apparaissent à hauteur de 24%, nous avons 1 159 967 € d'achat, à peu près 13%. Et dans les autres charges, à hauteur de 10%, nous avons entre autres la contribution au SDIS, au service départemental d'incendie et de secours, à hauteur de 280 000 euros, et les subventions aux associations, nos associations, à hauteur de 132 000 euros. Les recettes, elles, se chiffrent à 13 334 258 euros. Donc, sur ces 13 millions, les impôts et taxes, et en particulier la taxe foncière, représentent 4 801 382 euros. La subvention, ce qu'on appelle l'attribution de compensation de Saint-Étienne Métropole, représente 2 122 000 euros. Et nous avons également des cessions immobilières en 2025, vous le savez très bien, pour 1 288 284 euros. Donc tout ça nous permet d'avoir, bien sûr, un excédent de recettes par rapport aux dépenses. Cet excédent cumulé atteint 2 459 671 et il était l'an dernier, 31 décembre 2024, de 2 059 936,43 euros, soit une augmentation de cet excédent de près de 400 000 euros, c'est-à-dire 399 733,93 euros. Avez-vous des questions sur ce compte administratif dans cette dimension fonctionnement? Donc, la structure, on la connaît à Saint-Priest-en-Jarret. Nos frais charges de personnel sont historiquement très élevés du fait que nous avons en gestion directe l'ensemble des services. On a eu encore récemment, je vous le disais, une famille qu'on a rencontrée dans le cadre du Pôle Enfant Jeunesse et qui était très exigeante par rapport aux prestations. Il se trouve que cette dame travaille à la mairie de la Talaudière et quand je lui ai dit mais comment ça se passe à la Talaudière, on a réglé le problème, on n'a pas de service Pôle Enfant Jeunesse. Voilà. Tout passe par le tissu associatif. Donc voilà, vous voyez cette réalité historique à Saint-Priest, la multiplicité des services que l'on propose avec la diversité des personnels qui vont avec est une réalité qui est très difficile d'appréhender, même si on réduit très sensiblement les effectifs. Ça veut dire que chaque fois qu'on a un départ, on s'interroge à voir si on va remplacer le poste, si on va déployer le poste ou un demi-poste. À chaque fois, on se pose ces questions. Et pour autant, alors en plus, quand on supprime un poste sur un départ, l'aspect économique réalisé, il n'est pas immédiat. Il n'est que l'année suivante. Et pour autant, c'est un poste de dépense qui continue à augmenter. Bien sûr, après, il reste quoi quand on a 65% de dépenses de personnel, 35% de dépenses, essentiellement, donc vous avez vu qu'il y avait des achats, c'est l'électricité, le gaz et les fluides en particulier. Je vous rappelle que, et vous le savez parce qu'on avait pris la décision, le fait d'éteindre la nuit, ce n'est pas aujourd'hui un choix philosophique, ça a été une réalité économique. On économise à peu près 80 000 euros par an de facturation du ciel sur cette fonction-là. Donc aujourd'hui, et ça sera la finalité, mais on verra pour le budget 2026, mais c'est une réalité. On a des recettes qu'on a du mal à faire évoluer positivement. La taxe foncière augmente, mais ce sont les revalorisations des bases décidées par l'État, puisque nous, on n'a pas, depuis maintenant 2 ans, touché au taux de taxe foncière municipale. J'insiste là-dessus. Donc, moins de recettes ou des recettes qui n'évoluent pas aussi vite que les dépenses, les efforts devront porter effectivement sur les dépenses. On peut passer aux investissements, si vous voulez. Donc là, vous aviez après une petite slide qui montrait en définitive qu'on était à 9 15 000 euros de dépenses réelles en 2025. Donc vous voyez la courbe pour un budget prévisionnel. Donc là, c'est dépenses réelles par rapport à un budget prévisionnel qui était de 10 498 116 euros pour 2025. Pour les investissements, pour les investissements, les dépenses s'élèvent à 5 479 411 euros, dont 734 068 euros de remboursement d'emprunt annuel. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on ait la capacité d'autofinancement, notre excédent de recettes de fonctionnement, pour au moins couvrir l'annuité de la dette. Dans nos dépenses en 2025 significatives, on a eu également l'achat à Epora des terrains à côté où se construit le Clos Marguerite. Donc on a acheté à Epora avait acheté, nous le revend, hein, c'est la convention. On a acheté pour 836 958,82 euros. Je vous rappelle que depuis 2020, nous avions provisionné chaque année cette acquisition. Donc on n'a pas eu de mauvaise surprise, c'était prévu. Et sur le stade, en 2025, nous avons engagé pour 2 344 813 euros. Le stade, pardon, l'espace sportif, Camille de Rochetaillé. En recettes, donc nous avons effectivement dans les emprunts 1 200 000. Alors, pour ceux qui étaient là à la commission finance, ce qui s'est passé fin 2025. Vous savez que dans nos budgets d'investissement, on prévoit toujours un recours à l'emprunt. On l'a réduit puisque depuis 2020, il était passé à 600 000 euros par an dans le budget. C'est une recette qui est budgétée. Et on constatait année après année quand on arrivait en fin d'année et on n'avait pas forcément tiré les 600 000 euros. Donc on les reportait sur l'année suivante. C'est ce qui s'est passé fin 2024. Les 600 000 euros prévus au budget n'ont pas été consommés, donc on les a reportés sur 2025. Et nous avions également prévu 600 000 euros pour le budget 2025. Donc 2 x 600 000, ça fait 1 200 000. Que nous n'aurions pas dû aller chercher. Mais vous savez que nous avons eu un peu plus d'1,7 million de subventions de l'État dans le cadre du Fonds vert pour Jules Verne, puisque c'était 1,7 million sur les 11 millions attribués au département. C'est quand même remarquable, et beaucoup de maires de la 7e métropole m'ont demandé comment on avait fait pour avoir une telle enveloppe. Je crois que c'est le projet, simplement. Puis les relations de confiance qu'on a avec la préfecture. Et ce 1,7 million, on ne l'a pas encaissé en 2025. Donc, en fin d'année, on a été obligé d'aller chercher le 1,2 million d'emprunt. Par contre, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'emprunt en 2026. Puisque là, on va toucher le 1,7 million. Alors, pourquoi on n'a pas touché? Parce qu'en fait, toutes les subventions ne sont payées à la collectivité que quand toutes les factures de dépenses ont été acquittées. Et sur Jules Verne, sur la fin d'année, on avait encore 30 ou 40 000 euros de factures qui n'étaient pas acquittées, donc on n'a pas touché le fonds vert. Par contre, on l'a perçu début 2026. Donc on a eu simplement un décalage d'un an, qui fait qu'on a eu à un moment donné, si on reprend les statistiques de l'endettement moyen par habitant, une montée brutale fin 2025, évidemment, avec le 1,2 million qu'on est allé chercher, et qui redescend fin 2026, puisqu'il n'y aura pas de recours à l'emprunt. Dans nos recettes, on a aussi le fonds de compensation de la TVA pour 276 000 euros. Alors vous savez ce que c'est? C'est qu'on paye de la TVA sur nos investissements, donc là, 2024, et un peu sur 2025, sur Jules Verne, et on a un décalage de 2 ans pour en être remboursé en partie. On paye une TVA à 20%, on est remboursé à 16%. C'est une recette, donc on sait calculer avec un décalage de 2 ans. Donc là, vous le verrez, dans le budget donc des recettes en investissement, on a 276 049,79 euros de fonds de compensation de la TVA. Et donc, les recettes pour 4 545 519 euros, des dépenses pour 5 479 411 euros, amène donc un déficit, je vais le retrouver, voilà, de 933 892 euros. Par contre, en investissement, on a tout à fait le droit d'être en déficit, puisque, comme vous le savez, en particulier des projets comme Jules Verne ou l'espace Camille de Rochetaillé, on est sur plusieurs années de dépenses et de recettes. Donc, vous voyez, on va toucher 1,7 million et on a un déficit de 933 000 euros. Donc on sera encore largement excédentaire pour cette année 2026. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les... Alors, je regarde rapidement. Dans nos investissements prévus en 2026. Alors, vous retrouvez tout ça, bien sûr, dans les documents, mais moi, j'ai été chercher un petit peu ce qui nous semblait important. Nous avons une année donc essentiellement consacrée à la finalisation du complexe sportif ou du stade, comme vous voulez, Camille de Rochetaillé, avec deux terrains de tennis couverts, deux cours extérieurs et deux paddles, puisque le foot, c'est fait. Les prévisions d'autres travaux en fonction de nos possibilités financières avec la recherche active de financement pour réduire le recours à l'emprunt, avec, de toute façon, c'est lancé. La réalisation de la dernière tranche de la vidéosurveillance, c'est fait. Le remplacement de l'ascenseur du NEC, il est commandé, il va être installé prochainement. L'acquisition d'un second minibus, puisque celui que nous avons commence à être un petit peu âgé, et donc c'est plus prudent de le changer, d'en avoir un second tout de suite. Et puis, des travaux de sécurité à la Villa Saint-Michel, je pense au chauffage, à la toiture et à l'aire de jeu mitoyenne. Enfin, bien sûr, on continuera à faire nos travaux d'investissement courant en éclairage public et en voirie. Le minibus, c'est 60 887 euros. Les tennis, fin du projet, c'est 1 502 214 euros. Et donc, un remboursement de l'emprunt, puisque vous savez que c'est une dépense, pour 736 353 euros 39. En recette, nous aurons le fonds vert annoncé, 1 776 240 euros, 150 000 euros que nous avons eu de subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une estimation du fonds de compensation de la TVA pour 2026 à 610 000 euros et, toujours pour le même projet, Camille de Rochetaillé, la contribution de Saint-Étienne-Métropole à hauteur de 1 338 476 euros. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a des recettes qui sont prévues, mais qui sont quasiment certaines. C'est ce qu'on appelle la prudence en termes de gestion, avec des dépenses qui sont engagées, mais qui seront tout à fait financées. Avez-vous d'autres questions par rapport à cette présentation? Alors, je conçois qu'elle est succincte, mais on avait déjà eu le débat d'orientation budgétaire il y a un mois. Et puis, les documents, vous les avez. Bon, de toute façon, la seule chose qu'il faut faire quand on reçoit les documents, c'est constater la concordance entre les documents qui émanent du Trésor public et les nôtres. Puis, comme je vous l'ai dit, ça va disparaître cette année. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Vous avez reçu tous les documents. Celui-ci aussi est envoyé. Vous avez reçu un document, une note de présentation brève et synthétique du budget. Là, j'ai fait une synthèse, mais vous l'avez plus en détail. Des questions? Donc, on va passer, si vous le voulez bien, à l'approbation de ces résultats. Je vais demander à Mireille. Comment? Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours les pompes funèbres. Et pour cause. Alors, on a les éléments, voilà. Oui, alors les pompes funèbres, vous savez que c'est un budget, enfin une gestion et un budget qu'on a en parallèle, c'est une gestion de stock. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, puisqu'on est alors sur 11 000. Donc les dépenses 11 684,28 euros, les recettes 13 478,91 euros. Alors vous savez que c'est une comptabilité de stock. On fait des espaces funéraires, des caveaux, on vend des tombes. Après, on rétrocède sous forme de concession. Ça, c'est du fonctionnement. Et puis, à côté, il y a effectivement de l'investissement quand on réalise nous-mêmes les travaux. Donc, pour les pompes funèbres en dépenses, donc en exploitation, nous avons 11 684,28 euros de dépenses et 13 478,91 euros de recettes, donc un excédent de clôture de 1 794,63 euros. Et en investissement, 11 684,08 euros de dépenses et 14 020,89 euros de recettes, soit un excédent de clôture de 2 336,82 euros. Question, Frédéric, est-ce que les pompes funèbres ne devraient pas être intégrées prochainement dans le budget global de la commune ? Vous ne savez pas ? Dans le cadre du CFU, non ? On continuera à avoir la double présentation. Très bien. Donc maintenant, vous allez voter, si vous le souhaitez, l'approbation des comptes. Vous savez que je suis tenu de sortir de la salle pendant cette délibération. Donc c'est Mireille qui va nous présenter rapidement, qui va vous présenter cette délibération.
Bonsoir à tous. Hors de la présence de M. Servan, maire, je demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2025 pour la commune. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, qui est pour ? Merci. Monsieur le maire peut revenir. Et tout va bien. Non ? Alors, bon. Au revoir. Hors la présence de M. Servan, maire, je demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver le compte administratif 2025 pour le service des pompes funèbres. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci à vous. Et M. le maire peut cette fois vraiment revenir.
Donc vous avez vu que nous avons, en termes de gestion comptable et financière, dégagé des résultats. Il nous appartient maintenant d'affecter ces résultats. Donc en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M57, après avoir approuvé le compte administratif 2025 que vous venez de faire, donc, qui présente un excédent de fonctionnement de 2 459 670,36 €, constatant que la section d'investissement du dit compte administratif fait apparaître un solde d'exécution globale de -933 892,28 €, constatant que le solde des restes à réaliser 2025 se porte à 1 602 165,85 €, donc nous avons un solde d'exécution de -933 892,28 €, un solde de reste à réaliser de +1 602 165,85 €, ce qui entraîne un excédent de financement de 668 273,57 €. Conformément à l'instruction M57, il convient d'affecter l'excédent de fonctionnement 2025, qui est donc de 2 459 670,36 €, comme suit. En fonctionnement, donc en recette, l'excédent reporté de 2 459 670,36 €. Quant à l'investissement, un déficit d'investissement reporté de 933 892,28 €. On vote. Des questions ? Donc on va pouvoir passer au vote. Donc on affecte l'excédent de fonctionnement en fonctionnement. Et puis le déficit d'investissement, on le maintient, puisque de toute façon, il sera couvert dès 2026. Qui est contre cette affectation des résultats ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, les résultats du compte administratif sont adoptés à l'unanimité, et je vous en remercie. On va passer maintenant à l'affectation du résultat du service connexe des pompes funèbres. Donc là aussi, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M4, après avoir approuvé le compte administratif 2025 qui présente un excédent de fonctionnement de 1 794,63 €, constatant que la section d'investissement du dit compte administratif fait apparaître un solde d'exécution global de 2 336,82 €, conformément à l'instruction M4, il convient d'affecter l'excédent de fonctionnement 2025 de 1 794,63 € comme suit. Donc, au budget primitif 2026, en fonctionnement recettes, l'excédent reporté de 1 794,63 € et en investissement, on maintient l'excédent d'investissement reporté à 2 336,82 €. Des questions par rapport à ça ? Donc là, c'est vraiment une formalité. Vous savez bien que le système de gestion des pompes funèbres, c'est lourd à gérer, mais c'est une formalité en termes comptables et administratifs. Qui est contre cette affectation ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, l'affectation au compte des pompes funèbres est validée. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 5. Ce sont les taux d'imposition des taxes directes locales. Donc, vous savez qu'on doit déterminer le taux d'imposition en début d'année pour qu'il soit effectif dans l'année. Pour 2026, je vous propose d'établir les taux d'imposition comme suit. Taxe foncière sur le bâti, 39%, inchangé. Taxe foncière sur le non bâti, 88,11%, inchangé. La taxe d'habitation, 10,02%, inchangé. Et je vous demande de bien vouloir approuver les taux que je viens de citer. Avez-vous des questions ? Donc, je vous rappelle, pour la taxe foncière, sur votre avis d'imposition, vous avez évidemment les bases qui sont revalorisées par l'État au regard de l'inflation de l'année précédente. Ce n'est pas nous qui décidons. Vous avez également sur ces documents la taxe d'ordures ménagères, c'est la métropole qui décide. Vous avez également un prélèvement GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et de protection des inondations, c'est la métropole qui gère. Nous, il nous reste la taxe foncière que je vous propose de ne pas faire évoluer pour l'année 2026. Des questions ? On va passer au vote. Qui est contre ces taux d'imposition ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, ils sont validés pour l'année 2026 et je vous en remercie. Le point 6 concerne l'autorisation de programme pluriannuel de l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire à l'époque Jules Ferry devenu Jules Verne. Et donc, on est en phase de bilan et de clôture de l'autorisation de programme. Par délibération 230306 du 27 mars 2023, le Conseil municipal a adopté le principe de recours au vote d'une autorisation de programme et de crédit de paiement pour la gestion pluriannuelle des investissements liés à l'extension et à la réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry comme suit. Donc, on a eu successivement des autorisations de programme qui évoluaient avec, l'évolution des investissements et du chantier. Donc, on avait à l'époque un montant de l'autorisation de programme de 4 834 341 €. Je vous fais grâce des autres éléments. Par délibération 250306 du 24 mars 2025, donc l'année suivante, on a approuvé le bilan annuel 2024 de l'autorisation de programme, a reporté les crédits de paiement non utilisés en 2024 pour un montant de 226 106,14 € sur l'exercice 2025. Ça veut dire que on est passé à une autorisation de programme de 4 966 281 €. Même délibération après, en date du 23 juin 2025, le Conseil municipal a approuvé la révision du montant de l'autorisation de programme en portant le montant total de l'autorisation de programme à 5 058 280,21 €. Donc ça, c'est la décision de l'autorisation de programme. Enfin, et on est en phase maintenant de clôture de ce projet, vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code général des collectivités territoriales portant définition des autorisations de programme et crédits de paiement, vu l'article L263-8 du Code des juridictions financières portant sur les modalités de liquidation et de mandatement avant le vote du budget, vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement, vu l'instruction M57, considérant que les travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry, renommé Jules Verne, et intégration de locaux de la petite enfance sont désormais achevés et que l'ensemble des situations financières est désormais acquitté. Ça veut dire, comme je le dis tout à l'heure, qu'on va pouvoir percevoir les subventions. Donc, on a le montant d'autorisation de programme à 5 058 280,21 €, avec une réalisation 2023 de 1 563 804,61 €, réalisation 2024 3 176 374,46 €, et réalisation 2025 284 666,83 €. Ça veut dire que si l'on additionne ces réalisations, on arrive à un coût global du projet de 5 024 845,90 €. Je vous demande donc de prononcer la clôture de l'autorisation de programme extension et réhabilitation du groupe scolaire Jules Ferry et de m'autoriser à encaisser les subventions liées inscrites au budget primitif 2026, un reste à réaliser. Je vous rappelle que sur ce coût global de 5 024 845,90 €, le reste à charge pour la commune est de 1 033 000 €. Donc ce n'était pas un projet ni déraisonnable ni excessif, puisqu'on savait à quelle hauteur on allait avoir des subventions. Donc, le coût pour la commune, il est de 1 033 000 € sur plus de 5 000 000 € de coût global. Des questions par rapport à la clôture de cette autorisation de programme? Donc, comme je vous l'ai expliqué, maintenant on va pouvoir solliciter nos partenaires pour le versement des subventions. Et donc, engranger de la trésorerie qui nous permettra de ne pas avoir de recours complémentaire à l'emprunt en 2026. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, ce dossier est clôturé à l'unanimité et je vous en remercie. Après, on passe au vote du budget, c'est ça? Donc là, on a vu, on a présenté tout à l'heure les budgets dans la continuité des comptes de résultats et des comptes de gestion. Donc, globalement, c'est bien ça, oui. Je suis quand même allé me référer aux chiffres définitifs. Donc pour 2026, vu le débat d'orientation budgétaire du 2 février 2026, vu la commission des finances du 19 février 2026 et vu le projet de budget primitif, je vous demande de vous prononcer sur le budget primitif 2026 arrêté comme suit. Pour les dépenses et recettes de fonctionnement qui s'équilibrent, donc 10 813 444,36 €, et pour les dépenses et recettes d'investissement, un montant de 5 792 673,18 €. Et pour le service des pompes funèbres, des dépenses et recettes d'exploitation pour 39 151,89 € et des dépenses et recettes d'investissement pour 37 347,26 €. Des questions, c'est en fait la synthèse, si l'on peut dire, des budgets qui ont été présentés tout à l'heure, que ce soit pour la commune en fonctionnement et en investissement ou pour les pompes funèbres. Donc, qui est contre cette formalisation? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, les budgets de la commune et du service des pompes funèbres pour 2026 sont adoptés à l'unanimité et je vous en remercie. Alors là, on va basculer sur quelque chose un petit peu plus technique, mais c'est incontournable. Budget primitif 2026, fongibilité des crédits en M57, c'est la référence comptable. Je vous informe que le référentiel M57 étend à toutes les collectivités territoriales les règles budgétaires assouplies, offrant une plus grande marge de manœuvre et une souplesse budgétaire aux gestionnaires, et notamment en matière de fongibilité des crédits. C'est une souplesse dans la mise en place, je dirais, des règles comptables. Vu l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, l'article 242 de la loi 2018-1317 du 28 décembre de la loi de finances pour 2019 et l'arrêté ministériel du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'Action et des Comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales. Considérant que la collectivité a adopté par la délibération 23-11-18 du Conseil municipal en date du 6 novembre 2023 la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2024 et que cette norme comptable s'appliquera au budget communal. Vu l'article L5217-16 du Code général des collectivités territoriales, dans la limite fixée à l'occasion du budget et ne pouvant dépasser 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée délibérante, donc le Conseil, peut déléguer la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, l'Assemblée délibérante est informée de ces mouvements de crédit lors de sa plus proche séance. Ça veut dire que l'on peut, en dehors des frais liés au personnel, décider, dans la limite de 7,5% des dépenses, des transferts de section à section, pour simplifier en fait notre gestion courante et pas avoir à vous représenter des budgets systématiquement, à la condition que lors d'un prochain conseil, vous en soyez informé. Mais ça ne touche pas, bien sûr, les frais de personnel. Il vous est donc proposé de bien vouloir m'autoriser à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Et donc, de bien vouloir donner tout pouvoir à moi-même, donc à M. le maire ou à son représentant, à prendre toutes les mesures ainsi qu'à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Bon, voilà, c'est une mécanique comptable, un assouplissement dans les règles de fonctionnement nous avait par le passé posé parfois des problèmes quand on vous disait ben non, on n'a plus d'argent sur telle section, c'est dommage, on a dans une autre section, mais on ne peut pas transférer, il faut faire un budget ou une demande modificative. Des questions par rapport à ça? Pas que ça en appelle. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, elle est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Ça nous apportera un petit peu de souplesse, en particulier en fonctionnement. On en a bien besoin. Le point suivant, ce qui est le point numéro 9. C'est une avance remboursable du budget principal au budget des pompes funèbres. Le budget annexe des pompes funèbres est un budget qui utilise de manière obligatoire la comptabilité de stock, notamment au niveau du suivi dans la vente des caveaux modulaires. C'est la section d'investissement qui retrace la comptabilité en compte de classe 3. On constate un déficit d'investissement en période de stockage, lorsqu'il y a achat de caveaux. Ce déficit se résorbe en période de déstockage, lorsqu'il y a vente des caveaux. Il n'y a jamais d'excédent d'investissement pour ce type de budget. Donc on investit, ça coûte pour en faire, et au fur et à mesure qu'on les attribue, on se rembourse. Le déficit de fonctionnement de ce budget retrace la moins-value réalisée, le cas échéant, lors de l'achat de biens. Comme dans toute comptabilité, La reprise des résultats est obligatoire chaque année au niveau des prévisions budgétaires, ce qui pose le problème des variations de stock d'une année sur l'autre. Afin de présenter un budget des pompes funèbres équilibré, il convient de prévoir une avance remboursable du budget de la commune au budget des pompes funèbres. Cette avance sera chaque année réajustée en fonction des achats et des ventes de caveaux modulaires de l'exercice précédent. Donc c'est un ajustement strictement comptable. Au budget primitif 2026 des pompes funèbres, une recette d'investissement au compte 16 878 autres dettes d'un montant de 25 663,18. Et donc, au budget primitif de la commune, une dépense, cette fois-ci, au compte 27 638, créance d'autres établissements publics d'un montant égal de 25 663,18. Donc là aussi, c'est un ajustement comptable budgétaire indispensable. Des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, cette avance est consentie et votée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, vous voyez, elle embalaye vraiment beaucoup de questions financières et comptables, mais c'est inévitable. Le point suivant concerne la constatation de créances éteintes de la commune de Saint-Priest-en-Jarret. Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses. Donc, vous savez que nous, on ordonnance les dépenses, les recettes, mais les mouvements financiers, c'est le comptable qui les gère. De poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Le comptable du Trésor expose qu'il convient d'émettre un mandat au compte 65-42 du budget de la commune pour donner suite à la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure ouverte à l'encontre de AM Diagnostic, CR Clinique, JUCAP et TFC2 et à l'effacement des dettes validées dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Donc ce sont des entreprises qui ont été mises en liquidation judiciaire pour lesquelles nous avions, le Trésor avait des dettes en TLPE, donc la taxe locale sur la publicité extérieure, pour un total de 3 209,07 €, qui ne pourront pas être recouvrés. Je vous demande donc de m'autoriser à admettre en créance éteinte les titres précités pour un montant de 3 209,07 € TTC, et émettre un mandat au compte 65-42, créance éteinte, dont les crédits nécessaires sont ouverts au budget primitif 2026, chapitre 65. Ça veut dire qu'on va constater ces créances qu'on aurait dû encaisser en dépenses, en charge. Des questions par rapport à ça ? Alors on en a régulièrement chaque année, hein, ça, c'est sur production. Du Trésor public, parce qu'ils ne sont plus en capacité de recouvrer nos recettes. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, cette décision de constatation en créance éteinte est validée à l'unanimité et je vous en remercie. Encore des créances à constater. Constatation des créances éteintes de la commune, c'est ça, hein ? Oui, il y en avait d'autres, mais c'est ça. De la commune de Saint-Priest-en-Jarret sur facturation de distribution d'eau potable. Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Le comptable du Trésor expose qu'il n'a pas proposé dans les délais de prescription de 4 ans d'admettre l'irrecouvrabilité des créances de facture d'eau qu'il convient dès lors de constater comme créances prescrites. Il incombe donc au conseil municipal de constater la prescription des créances de la part assainissement et de la part eau des dites factures émises avant la date des transferts de compétences de l'assainissement et de la gestion de la distribution d'eau potable à la communauté d'agglomération sur le budget de la commune. Donc c'était une époque où on était encore en gestion directe. Donc, au total, alors vous avez le détail hein, par année, par eau, par assainissement, etc. Donc, je vous demande de m'autoriser à admettre en créance éteinte des factures émises avant la date de transfert de compétences de la gestion de la distribution d'eau potable à la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole au budget communal pour un montant de 912,18 € TTC et émettre là aussi un mandat au compte 6542, créance éteinte dont les crédits nécessaires sont ouverts au budget 2026, chapitre 65. C'est la même logique que précédemment. Cette recette devient une dépense prise en charge par la commune. Le montant des créances éteintes pour ces factures fera l'objet d'une demande de remboursement auprès de Saint-Étienne Métropole, puisque ce sont eux qui ont la gestion de l'eau maintenant. D'autres questions par rapport à ça ? Donc on va voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc à l'unanimité, nous inscrivons ces créances. Et je vous en remercie. Le point suivant, et là j'ai passé enfin la parole à Christine Gezins, la directrice, la présidente du conseil d'administration du NEC, qui va nous présenter la situation et la demande de subvention.
Voilà. Donc bonsoir, Christine Gezins. Afin de mieux appréhender l'enjeu de la demande de subvention du NEC auprès de la mairie de Saint-Prié, il vous est communiqué les éléments d'activité suivants. Donc, au titre de la saison 2025-2026, le NEC a recueilli 841 abonnements à ce jour. L'origine géographique des abonnés est la suivante. 304 pour Saint-Prié-en-Jarret, ça correspond à 36%. 155 abonnés pour Saint-Étienne, soit 18%. 131 pour Villars, soit 16%. Pardon, je regarde ce qui se passe derrière moi. 70% des abonnés sont donc originaires de la commune de Saint-Étienne et de Villars. Pour la saison 2025-2026, le NEC a proposé 19 spectacles tout public, 3 spectacles pour les jeunes publics, 2 grands reportages et 6 spectacles à l'occasion du Festival de théâtre amateur. Les résultats financiers, en 2025, la recette de billetterie était de 102 036. La subvention municipale représente 45% des recettes d'exploitation, c'est-à-dire 83 000 euros, l'an passé comme cette année d'ailleurs. En dépenses, l'achat des spectacles atteint 64% des charges d'exploitation. La location de matériel technique pour les spectacles se positionne à 3%. Les charges de personnel sont de 11%, c'est-à-dire nos intermittents du spectacle. On doit avoir recours à d'autres intermittents parce que les deux régisseurs ne suffisent pas pour des grands spectacles. Et les droits des auteurs, dont la SACD, à 9%. En 2025, le résultat d'exploitation est excédentaire de 4 761,27 €. L'excédent de 2025 est lié à la diminution du nombre de plaquettes imprimées qui est passé de 21 000 exemplaires à 3 000 exemplaires. On a décidé de moins imprimer, c'était le vœu du conseil d'administration. Au budget primitif 2025, il avait été prévisionné 90 000 euros de billetterie, donc il a été réalisé 14% de plus. Il est vrai qu'on reste toujours prudent sur la prise d'abonnement parce que on ne sait jamais comment ça va se passer. Quant aux excédents cumulés après affectation du résultat 2025, ils s'établiront à 141 479,42 €. Nous avons préparé, enfin, je parle un petit peu plus du NEC là, puisque j'en ai l'occasion. Nous avons préparé la programmation de la saison prochaine. Le lancement de saison aura lieu le 1er juin à 11h et 19h. Monsieur le maire vous propose une subvention de 83 000 euros pour la régie du NEC pour l'exercice 2026.
Alors bon, le NEC est une vitrine de la commune au niveau artistique et culturel. C'est reconnu. Vous avez aussi les partenariats et des communes voisines qui sont très attachées. Donc on vous propose de reconduire la même subvention que l'année dernière, 83 000 euros. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonctionnement, quand on a, couvert l'ensemble de nos dépenses obligatoires, bien, ma foi, là où on peut encore agir, c'est sur les subventions. Vous savez qu'on a un tissu associatif très important. Donc, on n'ira vraisemblablement pas vers des augmentations de subventions. On sera prudent et on s'adaptera à la situation de chaque association, en ce qui concerne le NEC. Donc, il n'y a pas d'augmentation de la subvention. On vous propose de la reconduire identique à celle de l'année précédente, à hauteur de 83 000 euros. Alors pour ceux qui vont régulièrement au NEC, ils nous font la démonstration qu'avec moins, ils peuvent faire aussi bien, voire mieux. N'est-ce pas, Christine ? Parce que les spectacles sont vraiment de qualité, ils sont vraiment appréciés. Et je crois que le résultat est là, c'est que le niveau de fréquentation atteint maintenant des records qui sont quand même particulièrement appréciables. Des questions par rapport au fonctionnement du NEC à Christine ou la subvention ? Alors c'est vrai qu'au moment où on vous parle, on a quasiment arrêté, et Mireille ne me contredira pas, les demandes de subvention de notre tissu associatif. Parce que je crois qu'ils avaient jusqu'à fin janvier, on va dire au 15 mars, pour formuler leurs demandes. On aura des arbitrages. On aurait pu essayer de les passer ce soir, mais ça aurait été quand même un petit peu contraignant, compte tenu du manque de visibilité qu'on a à moyen terme ou à court terme, à quelques semaines ou à quelques mois. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même des associations qui tournent bien, qui travaillent bien, qui ont des bons résultats, qui sont vraiment là aussi une force pour notre territoire. Donc il faut qu'on puisse continuer à les accompagner. Donc voilà, qui a des questions sur cette subvention pour le NEC, que je vous propose donc de reconduire à 83 000 euros. Alors qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc nous validons la subvention de 83 000 euros à destination du NEC. Je vais passer la parole maintenant à Rémi Mounier qui va nous parler des tarifs de location, des futurs tarifs des padels en cours.
Oui, merci monsieur le maire. Donc Rémi Mounier, donc, le conseil municipal a eu l'occasion la semaine dernière d'aller visiter l'avancée des travaux sur le complexe Camille de Roche-Taillé. Donc après la livraison des deux terrains de foot, le gros des travaux et du chantier se déroule aujourd'hui sur la partie tennis, avec la construction de la deuxième structure du court couvert, de l'agrandissement du clubhouse et les terrains extérieurs. Donc la structure en bois qui va couvrir les pistes de padel est, elle, terminée. Et ils ont commencé à faire les poses de moquettes au niveau des pistes de padel, d'où il convient, puisque les padels pourraient être en fonctionnement, on va dire, au printemps, courant avril. Donc il convient de mettre en place et de voter cette délibération pour mettre en place le fonctionnement sur la partie location des padels, puisque les terrains seront à disposition du club, mais il a été aussi prévu, bien évidemment, que les mounards non adhérents au club de tennis puissent bénéficier de créneaux horaires au niveau de ces terrains. Donc on a travaillé avec le club, qui a eu la priorité sur les créneaux horaires en fonction de l'enseignement qu'ils vont faire, en fonction des manifestations. Et on leur a demandé de nous présenter une première grille de choix de créneaux horaires. Ils sont somme toute restés très raisonnables dans ce qu'ils ont fourni, en nous laissant quand même pas mal de créneaux. Donc on ne rentrera pas dans les détails puisque c'est une première piste de travail. Mais ils ont accordé des créneaux sur la semaine, sur le week-end, qui pourront être mis à disposition des mounards. Donc ça, c'est la première chose. Le terrain sera mis en fonctionnement. Et après, donc il faut, d'où l'objet de cette délibération, travailler sur la partie tarification. Donc je reprends les éléments d'information. Monsieur le maire rappelle que l'important projet de réaménagement du complexe sportif de Camille de Roche-Taillé a été co-construit avec les deux clubs concernés, le self-foot et le tennis club de Saint-Priant-Jarret. Pour le tennis et à la demande du club, les nouveaux aménagements réalisés sont l'agrandissement du pôle house, la création d'un nouveau court de tennis couvert et de deux courts de tennis extérieurs en terre battue et de deux pistes couvertes de paddle. Si l'objectif principal de ces investissements est de mettre à disposition du club de tennis des infrastructures lui permettant de se développer grâce notamment aux pistes de paddle, la municipalité souhaite également permettre leur accès aux mounards non adhérents du club de tennis et également aux employés communaux sur des créneaux qui seront donc réservés à la mairie. Néanmoins, afin de ne pas pénaliser le club dans son projet, la répartition des créneaux mairie-club a été faite en concertation avec lui. la commune ayant laissé au club le choix de fixer les créneaux jugés essentiels et prioritaires pour son activité. Concernant les créneaux mairie réservés exclusivement aux Mounards, leur gestion se fera avec une application qui s'appelle FitArena. Cette solution numérique et le matériel connecté installé permet de réserver un créneau de paddle, d'accéder à la piste, de gérer l'éclairage et de payer en ligne la réservation que je vous propose de fixer à 32 € pour 4 personnes pour un créneau de 1h30, 90 minutes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Alors vous avez compris que bon, le tarif, on l'a fixé comme ça après s'être renseigné pour voir ce qui se pratiquait ailleurs. On est sur des séquences, on a une discussion entre des séquences d'une heure ou une heure et demie. Une heure, ça nous semblait quand même un peu court pour ce genre d'activité. Donc, dans beaucoup d'ailleurs de clubs, c'est 1h30. Donc, on est passé à 1h30. Ça revient, vous l'avez compris, à 8 € par personne, puisqu'il y a 4 jours à chaque fois. Ça fait 32 € pour la séquence d'1h30. Sur les créneaux, on est très pragmatique. Alors, comme l'a dit Rémi Mounier, le club n'a pas été excessif dans ses attentes. Pour eux, c'est un atout pour relancer d'abord l'ensemble des activités autour du tennis. Je vous rappelle qu'ils sont investis dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ils sont également investis dans les pratiques du tennis chez les tout jeunes. Et donc le padel, c'est une plus-value également. On évoluera dans le temps. L'idée, c'est que, à l'usage, si on constate qu'il y a des créneaux mairies, municipalités qui ne sont pas occupées, ils pourront les utiliser. Et à l'inverse, si eux ont des créneaux qui ne sont pas utilisés, on pourra nous les récupérer en gestion municipale. Alors, on verra exactement. On a dit à ce moment-là, il faudra qu'on soit sur une séquence de 48 heures avant ou des choses comme ça. L'idée, c'est qu'ils puissent aussi utiliser le paddle comme un élément d'attractivité en organisant des compétitions, des formations, des sensibilisations. Ils s'intégreront d'ailleurs, je crois, dans l'école du sport.
Non. Tout à fait, oui.
Voilà. Donc, là aussi, c'est un partenariat qui, pour moi, enfin, c'est un point de vue, mais je crois qu'il est partagé par les autres élus, gagnant-gagnant. On avait eu la même démarche avec le self-foot, quand on a entrepris le projet Camille de Roche-Taillé. On n'a rien fait sans avoir leur avis et leur implication. Et avec le tennis, c'est pareil. Parce qu'on ne peut pas partir sur des projets de cette dimension, avec deux clubs qui sont très importants pour la commune, sans qu'il y ait vraiment une appropriation collective du projet. Et je crois que les deux associations nous en sont reconnaissantes. Je ne parle pas du foot, où de toute façon maintenant c'est acquis, hein. Mais également au niveau du tennis. On a eu des contacts avec la Fédération française de tennis. Il y a une subvention qui est en cours de négociation. Là aussi, on veut faire simple. Donc on va voir quelles sont les modalités, parce que la Fédération française de tennis était un petit peu exigeante dans ses demandes, et très concrètement, elle aurait souhaité que l'on donne totalement la gestion du paddle au club. On ne s'occupait plus de rien, moyennant une redevance annuelle. Alors moi, j'ai dit, c'est pas compliqué, on prend ce que ça nous coûte, on divise par 50 la durée d'amortissement. Est-ce que le club pourra nous fournir 70 ou 80 000 euros par an? Ils ont dit non. J'ai dit, bon, on en reste là. Donc là, c'est un temps partagé. On va mettre en place une régie. On a un outil, me semble-t-il, de gestion qui est très performant et qui lui aussi sera évolutif. Au point qu'on s'est dit, si ça marche bien pour le paddle, il faudra peut-être qu'on réfléchisse à l'utiliser, cet outil, pour d'autres modes de location et de mise à disposition de salles municipales.
Une fois que l'inscription, pour parler de l'outil, une fois que l'inscription est faite sur la plateforme et validée, après les personnes sont totalement autonomes pour réserver une piste de paddle et le système leur envoie un code unique qui leur donne l'accès au terrain. Même au niveau du tarif, on a travaillé sur une tarification qui se veut positionner à peu près au milieu de ce qui se fait, puisqu'on a sondé un peu ce qui se fait autour. On est souvent entre 28 et 40 euros. On ne voulait pas être non plus pas trop cher, pour pas finalement... l'idée est quand même d'aller chercher, que le club puisse aller chercher des adhérents. Le club va proposer des formules aussi uniquement paddle pour l'ensemble des adhérents. Donc l'idée, c'était d'avoir un tarif qui permette malgré tout, nous, de couvrir un certain nombre de frais, mais qui ne soit pas non plus empêchant pour le club d'aller chercher de nouveaux adhérents et derrière qu'il ne soit pas non plus trop bas par rapport aux structures qui existent tout à côté. L'idée étant pas d'enlever des joueurs de pistes de paddle sur les communes de la Tour en Jarret ou autre. Il y a de la place pour tout le monde, il y a des terrains pour tout le monde, et quoi qu'il en soit, si ces créneaux sont surutilisés, ça sera ça en moins pour les adhérents du club. Donc l'idée était vraiment de trouver quelque chose qui convient à tout le monde, et même le tarif qui a été évoqué avec les responsables du club a été validé dans ce qu'on a évoqué comme étant un tarif qui est parfaitement en adéquation avec aujourd'hui la pratique et ce qui se fait ailleurs.
Sachant que c'est une structure qui pourra être utilisée tard, hors saison, puisqu'en fait elle est couverte, hein, vous l'avez vu. Elle est bien isolée sur les côtés. Donc là aussi, ça offrira des opportunités qu'il n'y a pas partout.
Et le dernier point, le système Fit Arena permet aussi de gérer l'éclairage. Donc dès lors que la dernière heure et demie de location a été consommée, l'éclairage s'éteint automatiquement. Donc il n'y a pas d'éclairage qui reste allumé toute la nuit ou de longues demi-heures ou heures, ce qui fera plaisir à Jacques. On n'aura pas des consommations d'électricité non voulues.
Des questions par rapport à ce... Donc vous voyez que là aussi, c'est vraiment quelque chose qui a bien évolué. On s'est posé beaucoup de questions. Le problème de la gestion des créneaux et de la tarification depuis le mois de septembre, on en parle. On a eu un bon écho aussi donc du club, bien sûr, mais aussi de la fédération. Alors la fédération, elle allait beaucoup plus loin, elle, parce qu'elle voyait le paddle, mais elle voyait aussi l'infrastructure tennis, et en particulier les deux cours extérieurs qui vont être en terre battue. Donc c'est quelque chose d'une plus-value là aussi pour la Fédération française de tennis. C'est ce qu'ils disent, hein, moi je ne suis pas un spécialiste. Donc voilà, encore un beau projet qui se finalise dans de bonnes conditions. Techniquement, on craignait les périodes d'hiver, parce que ce n'est pas le moment où on peut avancer. La météo nous a permis de bien avancer sur ces projets. Donc voilà, je crois que vous avez pu voir une bonne partie d'entre vous la semaine dernière, la qualité de la structure que ça va représenter.
Et quand on parle de créneaux réservés aux Mounards, on parle aux Mounards au sens large, c'est-à-dire les habitants de la commune, mais aussi c'est valable pour le tissu associatif. Et le tissu, surtout d'entreprise
économique,
qui pourra aussi bénéficier de ces créneaux pour organiser des événements avec des salariés, pour organiser des après-midi découvertes. Le club va même lui aussi proposer des sessions. Ils sont en train de mettre en place tout un projet aussi de tournois. Tournois, certes, internes, réservés aux adhérents fédérations. Mais aussi, ils veulent se lancer dans des tournois pour de la découverte, pour faire venir ce qu'ils appellent des tournois open, pour faire venir tout le monde. Et derrière, l'idée étant pour eux d'aller chercher de nouveaux adhérents et proposer aussi des sessions d'initiation, de perfectionnement à ce sport. Donc, essayer aussi de développer et prolonger l'expérience et puis derrière, d'aller un peu plus loin, en proposant des événements ludiques pour les joueurs les plus jeunes, tout comme nous, on le fera avec l'école du sport et à travers le centre de loisirs où il y aura une session qui sera organisée et où chacun pourra y avoir accès. Donc ça reste vraiment Mounard au sens large, tissu économique, et même derrière, ils vont proposer des sessions avec d'autres associations pour que certains adhérents d'autres associations Mounard puissent venir découvrir. Ce qu'on a dit au niveau de ce complexe de Camille de Rochetaillé, on est vraiment en train de créer un lieu de vie là-bas, où avant on était un peu cloisonné avec le tennis d'un côté et le foot de l'autre. On est en train d'ouvrir quelque chose qui est aéré, ouvert, et qui va pouvoir ouvrir à beaucoup de solutions et de développement dans le cadre d'événements sportifs d'envergure avec les terrains de foot, mais aussi de tennis. Alors là, on parle des pistes de paddle, mais il y a aussi les tennis couverts et les tennis en terre battue à côté.
Je dirais, mais là, je me fais un peu plaisir, que c'est aussi un projet évolutif. Rien n'est figé. Donc, on va peut-être passer au vote, si vous le voulez bien. Donc, qui est contre cette tarification de location des paddles ? Pour rappel, 32 euros donc, pour un créneau de 90 minutes. Donc, 32 euros pour 4 joueurs. Oui.
Non.
Non, seule la personne qui sera identifiée sur Fit Arena sera Mounard. On y a réfléchi, hein, mais 4 Mounard sur une piste de paddle, ça reste quand même très, très restreint. Parce qu'il faut, voilà, il faut trouver, on va dire, 4 copains Mounard qui veulent jouer au paddle. Donc on part sur une personne, d'autant plus que le paiement est réalisé par le Mounard. C'est de la même façon, on n'a pas 4 règlements, c'est à lui d'aller récupérer ou d'offrir la piste à ses amis. Il fait comme il veut, mais d'aller récupérer les sommes d'argent. Mais on aurait pu, hein, le système permet de le faire, mais il faut que les 4 s'identifient et autres. Ça devient trop complexe et finalement, derrière, ça devient un énorme frein. Un seul, ça suffit.
C'est un petit peu pareil pour le réveillon solidaire. Hein. On demande aux personnes de s'inscrire. Bon, elles sont mounardes. Après, si elles veulent inviter des personnes qui ne sont pas de la commune, on ne va pas forcément les contrôler. Donc, c'est un point d'entrée. Là aussi, on verra comment ça évoluera. Peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de demandes, peut-être qu'on en aura beaucoup. Et il faudra que dans le temps, on soit en capacité d'être un peu plus restrictif. Donc on va passer au vote. Donc qui est contre cette tarification? Je vous rappelle, 32 € pour 90 minutes pour. Alors on ne dit pas des terrains, on dit des pistes, pas de l'un. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc cette tarification est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Le point suivant, comme chaque conseil, c'est l'état des décisions du maire que je prends sur votre délégation que vous m'avez accordée. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose de particulier. On a des contrats de maintenance. On vient d'en parler, la Fit Arena, donc pour 3 120 €. Le service, 4 320. Et la gestion automatisée, 1 224. On a aussi donc le coût de l'organisation du séjour de ski à Valoir pour 17 630 €. 36 enfants et 7 accompagnateurs. Là encore, un très beau séjour, je crois, Rémi Mounier. On n'a eu qu'une clavicule, je crois, qui était endommagée.
On a limité les dégâts cette année.
Oui, on a limité, parce qu'il y a des années, c'est beaucoup plus grave que ça.
Hein. On avait eu un petit baptême de l'air en hélicoptère pour l'année passée. On l'a évité cette année et c'est pas plus mal. Heureusement, hein, ce n'est pas toutes les années quand même. Mais oui, un séjour qui s'est très bien passé, qui a rempli encore un vif succès, séjour qu'on fait historiquement à Valoir, au centre la joie de vivre, et qui remplit toutes les conditions et de ski, mais aussi de sport et d'activité à côté, puisque les enfants partent une semaine, mais sur la semaine, il y a 4 jours de ski et on va dire 2 jours et demi d'activité autre.
Quand on est allé avec Sylvie Barbe au départ du car, ils pleuraient, ils ne voulaient pas monter dans le car. Et quand ils sont arrivés, ils ne voulaient plus descendre du car. Non, mais c'est vraiment sympathique de voir l'évolution sur une semaine et les relations qu'on peut se créer entre eux. Donc, l'état de décision du maire. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Après, il y a des contrats qui sont renouvelés. Beaucoup de reconductions annuelles. Je pense à Rivoire, à Loire-Hygiène, à Groupama. On a pu renégocier un nouveau contrat d'assurance. Donc là, il n'y a pas de vote. C'est simplement une communication. Le point 15 est aussi obligatoire. C'est le bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l'année, l'exercice 2025. L'article L2241 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les conseils municipaux doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières, et ce, dans le but d'apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les collectivités territoriales. Donc vous le trouverez ci-dessous. Donc on a toutes les références cadastrales. C'est la cession en fait de l'ensemble de ces lots cadastraux pour construire l'immeuble, le Clos Marguerite, à la société A2S Immo. Ça c'est pour les acquisitions. Pour les cessions, on a cédé. Là aussi, alors je vous rappelle que sur ce terrain, il y avait plusieurs emprises. Il y avait les emprises rachetées par Epora auprès des propriétaires privés et que nous, après, on a racheté à Epora. On n'a pas racheté à Epora, en fait, on a payé le différentiel, le reste à charge. Et puis, on a vendu directement à 2S Immo 2 emprises l'ex-salle de l'atelier et, de mémoire, l'ancien poste de police. C'est ça, Frédéric, hein ? Donc, la parcelle H170 pour 157 000 euros et la parcelle AD267, alors ça, c'est autre chose, les parcelles H479, 482, là aussi à 2S IMO pour 127 000 euros. Et enfin, une petite parcelle, l'AD267 au CRE, à M. Seine pour 200 euros. Des questions par rapport à ça ? Donc c'est un état des lieux. Donc on va passer au vote. Je ne vote pas parce que c'est un point de communication. Ce serait difficile de revenir en arrière. Donc après, je vais passer la parole, point 16, à Antoine Di Paolo qui va nous parler de la convention avec 30 millions d'amis.
Oui, bonsoir à tous. Donc c'est une convention avec la fondation 30 millions d'amis pour une campagne de stérilisation et d'identification des chats errants sur notre commune. Monsieur le maire expose. Depuis 2014, la commune signe une convention relative à une campagne de stérilisation et d'identification des chats errants avec la fondation 30 millions d'amis. Depuis quelques années, la fondation 30 millions d'amis participait aux frais à hauteur de 50%. À titre d'exemple, en 2025, nous avons stérilisé, par l'intermédiaire bien sûr des bulles vertes, c'est la clinique avec laquelle nous travaillons, nous avons stérilisé et identifié 15 chats errants pour un coût total de 1 650 euros. Nous avons donc dû verser 825 euros à la Fondation 30 millions d'amis. Mais pour 2026, la Fondation 30 millions d'amis s'engage à régler aux vétérinaires la totalité des frais de stérilisation et d'identification des chats errants à hauteur des tarifs conventionnés. Je vous demande donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la nouvelle convention avec la Fondation 30 millions d'amis pour une campagne de stérilisation de 15 chats avec une enveloppe de 1 650 euros pour 2026. Si vous avez des questions.
Donc c'est maintenant, ça fait près de 10 ans qu'on travaille avec 30 millions d'amis puis les associations locales pour la capture, l'identification, la castration et la stérilisation des chats errants. On aurait pu croire, en partant dans ces opérations il y a 10 ans, qu'on verrait de moins en moins de chats errants. Alors après, c'est pas parce qu'on voit des chats dans la rue que ce sont des chats errants, hein. Ça peut être des chats de particuliers qui se promènent, qui se baladent. Bon, puisque la première des choses à faire quand un chat est attrapé, c'est de l'identifier, de voir s'il est pucé et s'il y a un propriétaire. Bon, on constate quand même qu'il y a une recrudescence, hein, des chats errants. Je pense que ça tient aussi à l'attitude des gens qui prennent des petits chatons, c'est mignon chez eux, et puis quand ils grandissent, ils s'en débarrassent. On a aussi pas mal eu, à une époque, de chats du côté du CHU. Donc là aussi, est-ce que c'est des gens qui venaient au CHU, qui les abandonnaient là ? Enfin bref, c'est quand même un souci. Bon, on a une réponse avec 30 millions d'amis qui est satisfaisante. Bon, je crois qu'ils jouent le jeu là aussi sans problème. Hein.
Puisque cette année, ils prennent en charge la totalité des frais.
À condition que ce soit des actes tarifés. Bon, s'il y a des surcoûts, c'est nous qui les prendrons en charge. Des questions par rapport à ça ? C'est une reconduction de convention, hein, ni plus ni moins. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, nous allons reconduire la convention avec 30 millions d'amis. Jacques, tu veux nous parler du prochain point suivant ? Tu veux nous parler du point suivant, la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage des espaces verts ? Bon, d'accord. Non, mais ce n'est pas un problème. Donc, il s'agit d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des espaces verts avenue Pierre-Mendès-France entre la commune de Saint-Priest-en-Jarret et Saint-Étienne Métropole, la deuxième tranche, puisque la première a été faite entre le début de la piste cyclable, on va dire une fois passé le carrefour de l'Ibis, jusqu'à la piste à hauteur de la maison de l'agriculture. Donc après, il y a une continuité. Les arbres ont été retirés, Mais pour autant, ça n'entrait pas dans le budget initial de la première convention. La présente convention a pour objet la réalisation des espaces verts dans le cadre de l'aménagement de voirie avenue Mendès-France, réalisée en 2026. Cette dernière définit les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des plantations, des travaux de parachèvement et de confortement des espaces verts sur l'avenue Pierre-Mendès-France, deuxième tranche. La convention relative à la première tranche a été approuvée en séance du conseil municipal du 12 mai 2025. Les travaux seront payés par la commune de Saint-Priest-en-Jarret. La participation financière de Saint-Étienne Métropole s'élèvera à hauteur de 19 410 euros hors taxes, soit 23 292 euros TTC, correspondant aux travaux de plantation, de fourniture, de parachèvement et de confortement. Saint-Étienne Métropole est redevable de l'intégralité des dépenses engagées en son nom et pour son compte par la commune de Saint-Priest-en-Jarret selon l'échéancier énoncé à l'article 6 de la présente convention. Je vous demande de bien vouloir approuver cette convention et m'autoriser à la signer. Ça veut dire qu'on achète les arbres, qu'on fait les plantations, les travaux, et après, Saint-Étienne Métropole nous rembourse. Comme pour la première tranche. Là aussi, c'est quelque chose qui n'était pas évident au départ, puisqu'en fait, il n'y avait pas la continuité de la piste cyclable. Il a fallu qu'on insiste un peu pour qu'on leur dise il faudrait peut-être replanter des arbres et puis que vous les preniez en charge au niveau du budget. Les questions? Donc, qui est contre? Ça serait dommage. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, on vote cette convention de partenariat avec Métropole à l'unanimité et je vous en remercie. Donc, après, on a deux points complémentaires. Qui vous ont été donc envoyés après, parce qu'on attendait des éléments techniques. Exonération du dispositif publicitaire au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2333-6, vu le Code des impositions sur les biens et services, et notamment ses articles L454-39 et suivants, vu la délibération numéro 260207 en date du 2 février 2026, portant évolution tarifaire de la taxe locale sur la publicité extérieure pour 2027, je vous demande de bien vouloir décider d'exonérer de taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, en application de l'article L454-64 du Code des impositions sur les biens et services, les faces des dispositifs publicitaires exploités en vertu d'un contrat conclu dans le cadre de l'exercice des compétences communales. Il s'agit de ce qu'on appelle vulgairement les sucettes, c'est-à-dire les panneaux d'affichage qui sont sur la voie publique et où on a des affiches des deux côtés. D'ailleurs, nous, on a aussi, avec la société, un accord pour pouvoir y mettre certaines de nos affiches. Donc, dans la mesure où on a un accord, je dirais, professionnel avec cette société, il ne serait pas très convenant qu'en plus, il soit assujetti à la TLPE. Voilà l'objet de cette délibération. On ne va pas doublement les taxer. Des questions? Donc on va mettre aux voix. Qui est contre ce dispositif d'exonération? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on va pouvoir mettre en place cette exonération et je vous en remercie. Le dernier point donc, qui a été rajouté également, c'est une convention de partenariat culture et santé avec le Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. La ville de Saint-Priest-en-Jarret et le Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, ce qu'on appelle le CHU, donc, souhaitent unir leurs forces pour développer la pratique et la diffusion de la culture à l'hôpital, inscrire pleinement l'hôpital dans la vie de la commune et faire de la culture l'objet de tous, patients comme personnel, tout au long de l'année. Ce partenariat vise également à développer des actions de sensibilisation, de prévention et de promotion de la santé, associées aux programmations culturelles ou prenant appui sur des démarches artistiques et culturelles, afin de favoriser l'accès à l'information, la compréhension des enjeux de santé publique et l'adoption de comportements favorables à la santé. La présente convention constitue une convention cadre pour encadrer chaque projet commun et fixe les engagements respectifs de la ville de Saint-Priest-en-Jarez et du CHU de Saint-Étienne dans la mise en œuvre d'un partenariat culture et santé intégrant des actions culturelles ainsi que des actions de sensibilisation et de prévention en santé associée ou en lien avec ces programmations culturelles. Alors, il ne s'agit pas, on a un partenariat avec l'association de la bibliothèque des malades du CHU, c'est une association mounarde que l'on accompagne. Là, c'est un projet d'échange sur la culture et la santé, et je crois que dans ce qui a été évoqué, c'est l'interlocuteur privilégié du CHU serait pour commencer la médiathèque, avec l'organisation de thématiques ou d'ateliers et de rencontres. Est-ce que vous avez lu la convention? Est-ce que vous avez des questions particulières sur cette convention? C'est une convention type, de toute façon, je pense. Mais là aussi, je pense que c'est un plus.
Si je peux me permettre, Christian.
Oui.
Je voulais juste rajouter, le 29 avril, à la médiathèque, nous allons recevoir des jeunes qui sont hospitalisés et qui liront leurs textes dans le cadre de la médiathèque. Ils les ont écrits au CHU, et ça leur permet de sortir aussi des murs du CHU et d'être ailleurs. Voilà. Et donc le spectacle, enfin leur écrit, ça s'appelle « Accord et Acri ». Et l'École municipale des arts aussi souhaite venir intervenir dans certains services qui les accueilleront pour jouer quelques petits concerts. Voilà.
Alors vous savez qu'avec le CHU, mais ça n'a rien à voir avec la culture, mais il y a quelques années, les jeunes avaient réalisé, je crois que c'était aux urgences enfants, une fresque. Donc voilà, c'est des partenariats qui sont mal connus et pourtant qui sont importants pour les personnes hospitalisées, en particulier les enfants, mais également pour les acteurs de ces partenariats chez nous, que ce soit nos personnels, si on parle de la médiathèque ou de l'École municipale des arts, ou de nos associations. Ça enrichit la nature de nos relations, ça crée des liens aussi, et c'est toujours intéressant, à des coûts qui sont presque insignifiants. Comment ? Sur 3 ans. Avez-vous des questions par rapport à ça ? Donc là aussi, on s'adaptera. Alors, vous avez remarqué que notre médiathèque est vraiment une médiathèque et pas plus simplement une bibliothèque. D'abord, le cadre s'y prête, on l'a quand même rénové pour plus de 80 000 euros, mais avec là aussi un partenariat très fort et de la région et du département, puisque ça nous est revenu à peine à la moitié, et que maintenant il s'y déroule des événements culturels qui vont bien au-delà de l'accès au CD, aux livres ou aux DVD. Donc là, ça s'inscrit totalement, je pense, dans cette démarche souhaitée par le CHU et à laquelle on a répondu, on propose de répondre favorablement. Des questions ? Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc, à l'unanimité, je vais pouvoir signer en votre nom la convention de partenariat culture et santé avec le CHU de Saint-Étienne. Je préfère appeler le CHU Nord, qui se trouve à Saint-Priest-en-Jarez. Oui, on a beaucoup d'inconvénients liés à ça, donc on ne va pas s'en priver. Voilà, on a fini le conseil municipal. Il me reste à vous en remercier. Je ne vais pas vous dire au prochain, il y en aura un forcément, mais qui sera là, on verra bien. Je voulais simplement faire un petit point. On a passé une mandature depuis 2020, ensemble, tous ensemble, quelles que soient nos sensibilités, nos convictions, puisqu'on est parti en fédérant les énergies et les volontés. On a démarré dans un contexte totalement inédit, le Covid, on a été élu le 15 mars et le 17, nous étions confinés. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a rien fait, souvenez-vous. Les distributions de masques, le suivi presque quotidien avec nos seniors, puis l'accompagnement des seniors sur les sites de vaccination. Donc voilà, on a fait quand même un gros travail. Ça nous a peut-être empêché de démarrer vite sur nos projets. Ça nous a imposé d'y réfléchir autrement. Je vous rappelle qu'on a eu le grand projet de la réhabilitation de la Villa Saint-Michel, un beau projet, malgré certains désaccords artistiques et architecturaux. In fine, on aurait pu le faire. Très concrètement, on aurait pu y installer la mairie un petit peu dans la même optique que ce qui s'est fait à Andrézieux-Boutéon. On était sur un budget minimum de 5,5 millions avant la période de l'inflation. Donc on serait plutôt aujourd'hui à 7 millions ou 7,5 millions. Si on avait choisi de faire la Villa Saint-Michel, on n'aurait jamais fait Jules Verne. Et je crois que le choix s'est imposé. Priorité à l'éducation, à nos enfants et à l'accompagnement, à devenir des citoyens pleinement responsables. Donc voilà, on a fait ça. On est parti sur d'autres projets. On avait aussi l'espace loisirs de la Bargette, souvenez-vous, qu'on aurait pu réaliser. Budgétairement, ça pouvait passer. On ne l'a pas fait parce que les architectes nous ont dit ben, on aurait dû attaquer normalement en juin 2024. Et ils nous ont dit, à partir de septembre, on ferme l'espace loisirs pendant 18 mois. C'était inenvisageable. On ne peut pas fermer cette salle pendant 18 mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les projets qui s'annoncent, et on a commencé là dans nos travaux d'urgence, on a commencé la rénovation du gymnase côtier. On va refaire les sols. Après, ceux qui y arriveront décideront. Mais tant qu'on n'aura pas une solution de repli des activités, en particulier sportives, qu'on a à la Bargette, sur un autre site, on ne pourra pas refaire la Bargette. Voilà, il faut le savoir. C'est une réalité qui s'impose à nous, au-delà des dimensions financières et budgétaires, mais qui est aussi une réalité, bien évidemment. Je pense qu'on a fait un bon travail dans la convivialité, je dirais la bonne humeur. On a eu des bons moments. Je me souviens d'une retransmission d'un match de Coupe d'Europe ou de Coupe du Monde de foot. On était euphorique au départ parce que les Français gagnaient, beaucoup moins à la fin parce qu'ils ont perdu. Mais voilà, c'est des moments aussi de partage. C'est comme ça qu'on avance, au-delà de nos individualités, de nos égos. C'est le travail collectif qui prime. Et puis, je pense que c'est le bilan qu'on doit être capable tous, individuellement et collectivement, de tirer de ce mandat. Voilà. Encore un grand merci à vous. Et bonne soirée.